This is my Aunt Stella.
Stella! Stella!
Bazinga, punk, now we're even. You all right?
My leg is broken, the bone's coming through.
I'll give you a fucking bone, you prick! Where's my fucking money?
So you had coffee.
Right.
Dans le système pénal américain, le ministère public est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La police qui enquête sur les crimes et le procureur qui poursuit les criminels. Voici leur histoire.
Bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, l'épisode 4 déjà, en compagnie d'Aurore évidemment. Bonsoir Aurore.
Bonsoir Ben.
Tu vas bien ?
Je vais très bien.
On est reparti pour une nouvelle édition de cette émission qui vous parle de séries télévisées. On va commencer par les news, on va parler de Heroes, étonnamment, quelques pilotes à revoir également, ou bien encore Super Fun Night. On commence par Heroes ?
On commence par Heroes, oui, et je ne vous propose pas ici des rediffusions d'anciens épisodes, mais au contraire de l'annonce par NBC de la commande de 13 tout nouveaux épisodes pour la série auprès de Tim Kring, donc le créateur originel de la série. Mm-hmm. Ce qui n'est pas plus mal vu qu'on sait à quel point cette série a été maltraitée au fur et à mesure qu'on avançait dans les saisons. Sa quatrième saison était vraiment bâclée et s'est terminée en 2010 de manière un petit peu abrupte. Donc on ne peut qu'espérer que cette renaissance de Heroes permettra peut-être de clôturer la série de manière un petit peu plus correcte.
Okay.
Par contre, le seul bémol qu'on peut mettre à cela, c'est qu'on n'a aucune nouvelle de ce qu'il en sera du casting, vu que certains acteurs qui jouaient des rôles importants dans Heroes ont trouvé du boulot ailleurs depuis.
Bah oui, ils n'allaient pas attendre qu'on veuille bien continuer cette série.
Et oui, voilà, donc c'est à voir.
Ok, un comeback à surveiller dans les prochains mois. Ok, très bien. On va continuer avec la revue de quelques pilotes. Cette fois-ci, j'ai cru comprendre que tu allais être un peu positive. C'est
voilà.
Pas mal.
Je me suis rendu compte que la fois passée, j'avais descendu en flèche 3 pilotes. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de vous en proposer 3 qui étaient plutôt prometteurs pour changer. Mmh. Le premier, il s'agit d'une comédie, donc d'un format 21-22 minutes. Il s'agit de Growing Up Fisher. Donc c'est une petite comédie familiale plutôt sympathique dans laquelle on va suivre le parcours d'une famille et surtout d'un petit garçon et de son père, dont la particularité est qu'il est aveugle, ce père. Ce qui permet pas mal de comiques de situation, vu que ce père aveugle fait soit souvent semblant de ne pas être aveugle du tout, notamment dans le travail. Pendant longtemps, il a fait semblant de voir parfaitement, simplement en s'appuyant sur son fils qui lui expliquait exactement où se trouvaient les gens, à qui il devait serrer les mains, etc., pour faire semblant de voir. Et puis aussi, il ne veut être empêché de rien faire, donc on va le voir conduire une voiture ou bien essayer de tronçonner un arbre, par exemple.
Ok, du comique de situation, donc.
Oui, c'était vraiment, vraiment très sympathique, ce petit pilote, et donc ça donne envie de continuer à suivre cette série.
Parfait.
Deuxième pilote que j'ai regardé, il s'agit de Bosch. Alors, Bosch, c'est quoi ? C'est une série produite cette fois-ci pour Amazon. Alors, Amazon, donc, qui cette année-ci s'est lancé également dans la production et la proposition de séries. Bosch, si certains d'entre vous sont lecteurs de Michael Connelly, il s'agit en fait de l'inspecteur Harry Bosch, qui est un des personnages les plus emblématiques de cet auteur-là et qui a déjà, dans les livres, fait énormément d'enquêtes différentes qu'on peut suivre quand on est lecteur de Michael Connelly. Alors ici, on voit que Amazon a vraiment mis les moyens, puisque les scénaristes, il s'agit de Michael Connelly d'un côté, mais aussi, je ne me souviens plus de son nom, mais d'un des scénaristes également de The Wire, donc ça présage déjà plutôt bien. On a aussi énormément de têtes d'acteurs connus, notamment dans The Wire, qu'on retrouve aussi dans cette série-là. Mm-hmm. Donc bon, entre le succès des livres, les scénaristes qui sont des grosses pointures, de bons acteurs, etc. Ben. On espère évidemment qu'il ne s'agit pas uniquement de miser sur des succès précédents pour essayer de faire une grosse machine dans laquelle il n'y aura pas grand-chose. Mais en tout cas, on peut espérer.
Ben oui. Ben, moi, j'ai eu l'occasion de voir le pilote, très franchement. Je reprends tous les critères que tu viens de décrire et ça m'a plu, donc à voir, voilà.
Voilà, on espère qu'on pourra voir la suite.
On espère que ça restera à la hauteur du casting de départ.
Voilà, exactement.
Très bien.
Troisième et dernier pilote dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Inside Number 9. Alors là, on n'est plus aux États-Unis, on est en Angleterre. C'est une série de la BBC et c'est vraiment un objet très particulier comme seuls les Anglais sont capables de nous en sortir. Jusqu'à présent, j'en ai vu 3 épisodes. Ce sont à chaque fois des histoires totalement séparées qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Le seul point commun, c'est qu'à chaque fois, il s'agit d'une histoire d'enfermement dans un lieu qui porte le numéro 9. Donc ça peut être une maison, un appartement, qui porte le numéro 9. Alors c'est vraiment particulier, à la fois très drôle et très très dérangeant parce que ça soulève à chaque fois des questions assez dramatique. Et donc je vous conseille vraiment d'y jeter un œil, ça vaut le coup. C'est très perturbant comme peuvent le faire les Anglais.
Très bien, oui, on voit un peu le style. Il n'y a que pour faire ça, mais bon, voilà.
Voilà.
À découvrir donc. Et pour terminer, on va parler Super Fun Night.
Oui, je tenais à vous parler de Super Fun Night. Pourquoi ? Parce que c'est une série qui a été plutôt maltraité, je trouve. C'est une série qui est apparue cette année-ci, qui est produite par la boîte de production de Conan O'Brien, Conaco, et qui met en scène Rebel Wilson. Alors, je ne connaissais pas du tout cette jeune femme. Il s'agit d'une actrice blonde et aux formes, on va dire, très généreuse.
Oui.
Voilà. Ce qui est plutôt nouveau, hein. On n'en voit pas
c'est
tant que
rare,
ça,
oui.
Hein,
oui.
Dans le monde des séries. Et cette actrice, franchement, tout comme l'univers qu'elle met en place dans cette série, vaut plutôt le coup. C'est très rafraîchissant. Elle joue vraiment énormément de son corps et de tout le ridicule qu'il peut y avoir autour de ce personnage un petit peu empâté et qui n'a pas énormément de succès auprès des garçons et tout. C'est plutôt réjouissant et surtout on n'en a pas vu beaucoup, donc ça c'est plutôt chouette. Mais par contre, la manière dont ça a été diffusé ne l'a pas du tout servi. Notamment, elle a été diffusée là, le tout dernier épisode qui devait clôturer la saison a été diffusé pendant les Jeux Olympiques et donc a fait des très mauvais scores. Du coup, on n'est pas sûr du tout que ce sera renouvelé pour une deuxième saison. C'est plutôt dommage, mais je croise les doigts quand même. Hein.
Parfait. On va marquer une petite pause musicale avec un titre que j'apprécie particulièrement, Under Pressure, David Bowie, les Queen.
Oui.
On a pu entendre notamment dans quoi ?
Ben justement, on l'a entendu dans Growing Up Fisher.
Et tu m'avais parlé d'un deuxième exemple ?
Et je l'avais aussi entendu dans Studio 60 on Sunset Street.
Parfait, on se retrouve juste après ce titre d'anthologie.
Thank you. adventures abound. Watching some good friends when you let me out. Tomorrow gets me higher. As you want, people on streets.
Peuvent-elles changer les mentalités? Ben oui, mais pourquoi pas? Et puis elles vont résoudre le conflit israélo-palestinien et la faim dans le monde aussi. Non mais sérieux, c'est quoi ces questions? Je me fatigue parfois, je vous jure. Non, c'est vrai, depuis que j'ai vu Breaking Bad, je regarde avec amour le petit dealer et je me dis que franchement, il a de l'avenir. Et puis Dexter m'a ouvert les yeux sur le rôle social des psychopathes. Tandis que les Sopranos m'ont permis d'entrer en empathie avec les difficultés du chef mafieux. Toute chose dont je n'avais aucune idée. C'est vrai, si on savait à quel point c'est difficile d'être méchant, peut-être pourrait-on tous se prendre par la main dans une grande chaîne d'amour fraternel. J'en ai la larme à l'œil. Pas vous? Bon, ok, c'est n'importe quoi. Mais en un sens, les anti-héros auraient-ils autant de succès s'ils ne nous permettaient pas en partie de nous connecter et d'accepter, d'apprivoiser la part sombre qu'il y a en chacun de nous et que nous refoulons au quotidien? Peut-être que voir la part d'humanité qu'il y a chez les tueurs de The Wire ou Oz me permet de ne pas me figer dans une morale manichéenne. Peut-être que voir vivre un polygame dans Big Love, une famille homoparentale dans Modern Family ou un handicapé dans Friday Night Lights me permet-il de prendre conscience de l'universalité sous les différences. Peut-être ces séries me permettent-elles de remplacer l'idéologie par une pratique d'attention aux situations particulières. Est-ce que les séries sont à la pointe des combats sur les sujets de société? Clairement pas. Il suffit de voir la façon dont la perte de virginité des filles est encore traitée la plupart du temps, et pour un avortement assumé dans Parenthood, combien de fausses couches opportunes. Sauf exception véritablement militante, les séries ne sont pas le fer de lance d'une pensée progressiste. Ce n'est d'ailleurs pas leur but. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles n'ont aucune influence sur nos mentalités.
Bien, bien, on en parle dans quelques instants. Avec ce petit débat qui arrive juste après la pause musicale. Play their game.
since then I'm slapped again. Tomorrow's king, an unsightly coward. You see, I know I'm gonna win. Talking about if they step on me tonight, they're gonna pay someday. Everyone is trying to bum me out.
Nous venons de quitter à l'instant un titre, ma foi, bien sympathique, proposé par Hills. Il s'agissait de Flower, sorti de quelle série télévisée, Aurore ?
Alors, My Mad Fat Diary, dont je tenais à célébrer le début de la deuxième saison.
Très bien, on va passer au débat. Est-ce que les séries télévisées peuvent changer les mentalités ? Alors, Aurore ?
Mais d'après toi ?
Bah, à t'écouter, hein, comme d'habitude, c'est un peu oui et non.
Oui, bien vu.
Voilà, on ressort toujours avec plus de questions. Les portes sont grandes ouvertes et il y a la possibilité de débattre pendant des heures, si on voulait. On va quand même tenter de résumer un petit peu.
Alors, pour résumer, il me semble avoir souligné que, d'un côté, peut-être, en effet, que les séries peuvent essayer de changer les mentalités, à leur échelle en tout cas, ne serait-ce que par leur effet un petit peu défoulatoire, je sais pas si on peut utiliser ce néologisme.
Okay, un superbe terme. Donc c'est le défouloir en gros. On voit quoi, des choses un peu atroces ou des choses qu'on aurait voulu faire soi-même et tout d'un coup, rien que parce qu'on les a vues faire à l'écran, on est moins frustré, on n'a plus envie de le faire soi-même, c'est ça ?
Alors, est-ce que vraiment on aurait envie d'aller si loin ? Probablement pas, mais en tout cas, ça a un effet assez défouloir de regarder des choses absolument atroces se dérouler devant nos yeux. Ça nous permet de relâcher peut-être un peu nos tensions et de véritablement nous détendre
devant des choses horribles.
Non, mais c'est okay. Pourquoi pas ?
Oui, mais
pourquoi pas ?
Je sais pas, il y a une étude autour de ça qui a prouvé tes dires ou c'est juste une théorie qui t'appartient ?
Alors, autant il n'y a aucune étude qui prouve que regarder beaucoup d'horreurs à la télévision nous permet d'être moins violents nous-mêmes, mais autant il n'y a aucune étude qui prouve le contraire et pourtant on n'arrête pas de le dire, de critiquer les jeux vidéo ou les films et les séries pour leur côté violent. Donc pour une fois je vais défendre tout simplement l'inverse.
Ok, tiens.
Alors, autre chose, au minimum aussi, ça permet une identification à certaines situations qui pourraient nous sembler assez éloignées et donc...
auxquelles on ne se serait pas intéressé peut-être naturellement. On rentre dans des mondes qui nous sont inconnus parfois aussi.
Oui, exactement. Et ça nous permet de mettre une humanité derrière ces situations-là, de nous sentir plus proches. Et donc, éventuellement, lorsqu'on rencontrera dans le futur une personne qui vit cette situation, d'être peut-être un peu plus attentif.
Oui, on sera moins démuni face à un nouveau sujet, quelque chose qu'on n'aurait jamais vu à l'écran dans ce cas-ci. Maintenant, il ne faut pas oublier que les séries télévisées, ça reste quand même un divertissement, donc ça nous touche moins que la réalité.
Alors, est-ce que ça nous touche moins que la réalité ? Je ne suis pas totalement d'accord, vu que la réalité, souvent, quand par exemple tu croises une personne dans la vraie vie, Tu n'as pas accès à ses pensées en direct, tu n'as pas accès à son ressenti, tu n'as accès qu'à ce qu'il accepte de montrer. Et parfois, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli à voir que l'on voit.
Donc en gros, quoi, la série télé ici dans ce cas-ci peut servir de catalyseur parce qu'elle va nous montrer une image idéale, elle va nous permettre de rentrer dans les pensées de certains personnages, elle va nous permettre de nous identifier plus peut-être à certaines situations.
ça permet au minimum de nous identifier plus. C'est pas forcément une image idéale, mais au minimum, c'est peut-être ça une image un peu plus complète. Mm-hmm. Parce que parfois, par exemple, je te donne un bête exemple, une série qui nous représenterait la vie de petits drogués. Si tu rencontres des gens comme ça dans la vraie vie, dans la rue, t'auras peut-être tendance à les éviter, et l'image qu'ils te donneront te repoussera plus qu'autre chose, et donc t'auras pas forcément envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Par contre, si tu regardes une série comme par exemple The Corner, qui représente justement la vie de drogués, parce que tu les suis relativement longtemps et que tu vois véritablement leur vie, pas seulement ce qu'ils montrent dans la rue, mais ce qu'ils vivent au quotidien, ouais. Ça te permet de voir d'autres aspects de ces personnes-là et peut-être de mieux comprendre. Et peut-être que le jour où tu auras affaire à ces personnes-là, tu ne verras plus uniquement la première image qu'ils te donnent d'entrée de jeu. Quoi.
Oui, d'accord, mais bon... Malgré tout, ça reste une image édulcorée, un peu faussée.
Reste une image édulcorée.
Voilà, il y a de belles couleurs, de belles images, c'est bien raconté, de bons acteurs, ça aide quand même à s'impliquer, tu vois.
Justement, peut-être que si c'était vraiment trop réaliste, trop cache la réalité telle qu'elle est, ça te rebuterait tellement que, comme quand tu le rencontres dans la réalité, t'aurais tendance à fuir. Tandis que là, peut-être que l'aspect, en effet, un peu esthétique, va te permettre un abord plus facile pour ensuite aller plus en profondeur.
Bien, je comprends le concept. Merci.
mais bon, malgré tout, donc on a dit toutes ces côtés positifs qu'on pouvait donner aux séries télévisées. Malgré tout, faut pas oublier que les séries télévisées ne sont qu'un divertissement.
Oui, la plupart des gens, quand ils se mettent devant la télévision, ils ne sont pas comme, je sais pas moi, si on prend une série politique avec un propos assez révolutionnaire ou que sais-je moi, on n'est pas comme dans un meeting politique ou dans une manifestation. On est dans son fauteuil en train de regarder la télévision. Donc, on n'est pas dans le même état d'esprit.
On est peut-être pas en effet dans le même état d'esprit, et c'est vrai qu'il peut y avoir parfois peut-être un effet un peu d'aplanissement de tout ce qui peut y avoir d'horrible. Finalement, c'est comme ça, et on accepte ça de manière un peu passive, parce que justement, on est devant notre télé, on est passif déjà quand on le reçoit au départ.
Dans la vraie vie, je pense que la plupart des gens maintenant sont passifs. Bon, je parle pour ceux que je vois et ceux que j'entends, hein, il y en a qui restent des militants, évidemment. Mais oui, j'ai l'impression que certains sujets assez graves pourraient peut-être malgré tout être banalisés, parce qu'ils sont trop montrés dans les séries télévisées ou dans des moments de divertissement à la télévision.
C'est possible que certains sujets finissent en effet par être banalisés, ou bien même que l'excès de certains sujets finissent par lasser et qu'on finisse par se dire « Bon, ça va, ce sujet-là, on en a assez parlé, ça suffit. » Je suis pas absolument sûre que ce soit le cas de tous les sujets, mais c'est vrai souvent on peut se rendre compte quand même que quand un sujet de société arrive dans une fiction, après tu vas voir ce sujet-là arriver dans plusieurs autres fictions, et il y a un effet comme ça de répétition qui peut donner l'impression que, oui bon, ça va, ce sujet-là...
Et parfois, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, peut-être une adaptation par rapport à l'actualité. On voit par exemple des choses qui se sont passées en vrai être adaptées à la télévision, et parfois l'inverse. Peut-être des situations qui se sont passées dans une série et par hasard, on la voit dans la vraie vie. On parlait la semaine dernière de Persons of Interest, et on voit finalement que la réalité rattrape la fiction dans ce cas-là.
Oui, voilà. Mais c'est vrai que peut-être on a été un petit peu habitué à cette idée-là et qu'on se rebelle moins facilement parce qu'on s'est fait à l'idée.
On est habitué, oui, le sujet ne nous est pas inconnu, donc quelque part on a l'impression qu'on nous répète la même chose, et c'est du déjà vu, quoi. Voilà, oui. C'est un des dangers, j'ai l'impression. C'est peut-être parfois utilisé. Je ne veux pas lancer un long débat là-dessus. Mais...
Alors là, il faudrait vraiment imaginer une espèce de grand esprit manipulateur
non,
derrière
non,
tout
non.
ça.
Non, 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 mais il y a quand même parfois une volonté, je ne sais pas, de parfois calmer l'opinion publique avec sur certains sujets.
Alors, tu ne peux pas nier qu'il y ait certains sujets de société qui étaient abordés dans les séries télévisées parce que, ben, simplement, les séries étaient payées par le gouvernement pour le faire, par exemple, et on cite souvent le fait que dans une série comme Beverly Hills, le fait que tout à coup un personnage soit confronté à un problème de drogue, ça permettait de faire une action de prévention auprès des jeunes sur ce sujet-là. Maintenant, de là à imaginer sur des sujets plus graves, plus politiques et même...
Non, non, ça, je dis pas que c'est systématique, je vois pas le complot derrière tout ça non plus, voilà.
Voilà.
Mais voilà, c'est dans l'air du temps de quand même communiquer sur des sujets bien précis. Hein. Quand on regarde des séries télévisées, je dirais à vocation familiale, bah, je dirais qu'à tout moment, bah, tu vas retrouver durant la saison la jeune fille enceinte, les problèmes de drogue et d'alcool, le divorce des parents, enfin... J'ai l'impression que malgré tout, tous ces sujets reviennent de manière perpétuelle parce que justement, ça fait partie d'un message à faire passer.
Alors, peut-être, sûrement que certains scénaristes ont une volonté un petit peu d'éducation
des
masses.
C'est le cahier des charges, je dirais. Check, on a fait la jeune fille enceinte. Check, on a fait le grand-père alcoolique.
Oui, pourquoi pas. Mais c'est vrai
c'est
aussi.
C'est un miroir de la société malgré tout, hein. Donc il faut qu'on se reconnaisse dans la série aussi qu'on voit, même si c'est dans un monde peut-être différent d'une autre. On doit quand même pouvoir s'identifier sur certains points. Donc voilà.
Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas oublier que les scénaristes, les créateurs de séries, essaient quand même d'être un minimum originaux. Et donc, il y a toujours un équilibre assez fragile, assez instable à trouver entre traiter de tout et rester ouvert à tout, et puis ne pas commencer à rabâcher les mêmes sujets continuellement, sinon le public tout simplement va s'en aller. Hein, donc, Je crois que, ben, on l'a dit au début, on ne tranchera pas cette question-là.
Voilà. Est-ce qu'il y a un autre aspect à discuter là tout de suite à propos de ce fameux changement de mentalité proposé, créé par les séries télé ?
Non, crois qu'on peut.
Je crois qu'on a fait le tour de la question.
Oui.
On va faire une pause musicale alors. Qu'est-ce que je vois sur ma petite liste ? Ah, un morceau qui va nous réveiller un petit peu ?
Oui.
Tu peux nous en parler ?
Alors, c'est Stuck in the Metal de Eagles of Death Metal et on l'a entendu dans Californication.
Très bien, on se retrouve juste après.
To the right. Grandma.
What are you doing home?
I quit. There's got to be more to life than cleaning the same pool over and over.
There isn't.
What the devil are you ladies in such a hurry for? You know we're going to scrub toilets, right?
Oh, you forgot your shirt again, Great Mama.
Yeah.
Woo! Here we go. Oh, 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 oh.
Nous sommes déjà de retour dans Série Folie, épisode 4. On va passer à la critique d'une série télévisée. Raising Hope passe sur le grill cette semaine et c'est évidemment notre ami Aurore qui s'en charge.
Oui, alors Raising Hope, c'est quoi ? Raising Hope, c'est une comédie créée par Greg Garcia, que l'on connaît davantage pour être également le créateur de My Name is Earl, la regrettée série.
Oui, dont on entend d'ailleurs le thème musical derrière une jolie voix.
Voilà, alors Greg Garcia donc s'est repris en main après l'arrêt de My Name is Earl et propose depuis 2010 sur la Fox cette nouvelle comédie qui se situe à peu près dans le même milieu, puisqu'il s'agit de l'Amérique blanche défavorisée, très très profonde.
Hein. Oui.
Alors, on passe un petit peu en revue ces différents critères sur lesquels on va juger cette série, même si on va se concentrer plus particulièrement sur deux critères et les autres en découlant. Mmh. Alors, tout d'abord, on va aborder les personnages qui nous permettront un petit peu de voir également l'intrigue. Les personnages, eh bien, on a d'abord Jimmy, qui est un très jeune adulte, fin adolescence, début de l'âge adulte. Qui est le fils de Virginia et Burt. Virginia et Burt qui l'ont eu quand ils étaient eux-mêmes très jeunes, voire adolescents.
Oui.
Ils vivent tous ensemble dans la maison familiale avec la grand-mère, puisque c'est au départ la maison de la grand-mère. Mais la grand-mère n'est absolument plus consciente d'elle-même, probablement malade d'Alzheimer ou quelque chose comme ça. Et donc, elle va se retrouver dans des situations toujours assez cocasses, quoique un petit peu perturbantes, qui bien souvent vont l'amener à se retrouver sans vêtements au-dessus de la ceinture.
Très bien, c'est un concept.
Voilà.
La charmante mamie.
Ça situe un petit peu le milieu. Mm-hmm. Oui, on est vraiment dans un milieu plutôt défavorisé, un petit peu trash. Même si, bon, ça reste une comédie familiale,
oui,
sur la Fox. Donc, c'est vrai que c'est une représentation comme ça d'un milieu un peu trash, mais qui va être présenté de manière assez sympathique et finalement ça va passer très bien. À la limite, les un ou deux premiers épisodes sont un petit peu plus dérangeants et puis au fur et à mesure,
voilà.
C'est même pas qu'on s'y fait, c'est que je crois que le propos étant posé,
est un peu édulcoré et vraiment tout public, essaient moins de choquer par ces aspects-là.
Voilà, oui. Alors, ces personnages donc se retrouvent dans la maison familiale. Un soir, là, c'est le pilote qui le raconte. Jimmy part acheter quelque chose au magasin, rencontre une jeune femme avec laquelle il va avoir une aventure. Tout ça pour se rendre compte le lendemain matin, à la table du petit déjeuner familial, alors qu'ils sont en train de regarder la télévision, que cette jeune femme est en fait une dangereuse tueuse en série, recherchée par la police. Alors évidemment, ils vont la maîtriser et l'envoyer en prison. Elle va être condamnée à mort.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Mais justement, l'histoire ne s'arrête pas là. Elle ne fait même que commencer, puisque l'aventure d'un soir que Jimmy a eu avec elle va aboutir sur la naissance d'une petite fille. La maman va être condamnée et donc exécutée malgré tout, et Jimmy va se retrouver avec cet enfant qui n'était évidemment pas prévu et qui au départ n'est pas du tout apprécié, dont l'avenue n'est pas du tout appréciée par les grands-parents, notamment la grand-mère, qui ont eux-mêmes dû élever un enfant très jeune et qui n'ont pas envie que ça recommence. Mais très vite, la situation va se...
Se normaliser.
L'enfant va être vite accepté. C'est une charmante, magnifique petite fille, petit bébé au départ. Et tout l'aspect agréable et un petit peu comique de situation de la série va se dérouler autour justement du fait que Jimmy lui-même a été élevé d'une manière assez particulière par des très jeunes adolescents qui ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient et qui donc faisaient énormément de bêtises avec lui. Mmh. Et lui-même va essayer d'élever sa fille un petit peu mieux que ses parents ne l'ont élevé, tout en essayant malgré tout d'admettre à quel point ses parents finalement ont fait du bon boulot.
Ils l'ont pas si mal élevé que ça finalement.
Voilà.
Good morning. I was just making sure you were still breathing. You are, in case you were wondering. I'm sorry your first couple days here have been a little rough. Not only do I have no idea what I'm doing, but my parents had me when they were 15, so they're pretty much clueless as well. And that thing that happened yesterday with your great great mama. Let's just say, I promise it will never happen again.
Voilà, après ce petit extrait dans lequel Jimmy parle à son nouveau bébé qui vient d'arriver dans la maison, nous allons pouvoir passer au deuxième critère, c'est l'univers donc dans lequel que met en place la série et qui nous permet également de montrer un petit peu l'originalité, la créativité de cette série, ainsi éventuellement, même si on reste dans la comédie et que c'est beaucoup moins pertinent ici, un propos éventuel qui peut être rapproché de celui de My Name is Earl, c'est-à-dire quelque part nous montrer une Amérique profonde beaucoup plus drôle, amusante et vivante qu'on ne pourrait l'imaginer.
Et qui s'en sort pas mal finalement. Ils ont des soucis, mais voilà, ils sont heureux.
Ils sont heureux et finalement, il n'y a aucune raison de les juger moins bien que d'autres catégories de la population. Mm-hmm. Donc cet univers, c'est quoi? C'est un petit peu comme l'univers de My Name is Earl. À côté de cette famille autour de laquelle vont tourner toutes les intrigues, vont se former petit à petit au cours des épisodes toute une série de personnages secondaires qui sont assez récurrents. On va avoir véritablement une petite ville qui va se former autour d'eux avec à chaque fois des personnages assez hauts en couleur, comme on pouvait l'avoir dans My Name is Earl, hein, pour ceux qui ont suivi. Et justement, un des aspects assez plaisants également, c'est que notamment dans la saison 3, on va avoir tous les acteurs de My Name is Earl qui vont venir les uns après les autres faire un petit clin d'œil, ouais. une apparition. Et c'est plutôt quand on a été un vrai fan de cette série-là et qu'on a vraiment apprécié la suivre et qu'on a vraiment été triste de son annulation surtout, mais c'était vraiment plaisant de voir ça. Donc le lien avec cette série-là reste très fort, même si, mais justement, depuis ces apparitions de tous ces acteurs-là, il y a un peu la sensation que Greg Garcia lui-même, voire peut-être les fans en général, ont quelque part réussi à faire leur deuil de cette série-là,
oui,
et qu'ils sont enfin
passés
à autre chose. Mm-hmm. C'est vrai que au tout début de la série, en tout cas pour ceux qui l'ont suivi dès le début, c'était mon cas, et qui donc se sont retrouvés assez vite dans une situation où oui, je vais suivre cette série-là parce que malgré tout j'ai un attachement à ce créateur-là et à My Name is Earl, mais malgré tout c'est un petit peu moins bien. Et puis avec cette saison 3 et l'espèce de clôture qui a qui a permis l'apparition de tous ces personnages, eh bien, on voit qu'on est passé à autre chose, que la série, finalement, existe par elle-même également. Même si c'est vrai que c'est un tout petit peu moins créatif et un tout petit peu moins également trash que ne pouvait l'être My Name is Earl. C'est plus familial, hein, très clairement. Ouais. C'est une histoire de famille, il y a une petite fille, enfin c'est un peu plus mignon, on va dire. Malgré tout, mais on a le même principe, une ville qui se crée avec des personnages assez agréables, des intrigues à chaque fois totalement loufoques. Et puis, une représentation très sympathique, on l'a dit, hein, très inventive de ce milieu finalement défavorisé qui nous paraît beaucoup plus agréable qu'on ne pouvait l'imaginer au premier abord. Donc, c'est une série plutôt agréable à suivre, qui n'arrive pas au niveau de Earl, mais qui malgré tout peut apporter pas mal de plaisir.
Bien, ce sera ta conclusion. Une série à découvrir si vous ne l'avez pas déjà fait de votre côté. Si vous voulez dire
non,
rien du tout. On va peut-être bien continuer en musique. Qu'avons-nous en préparation avant la machine à remonter le temps?
Alors, on a... Mais comment on va aborder juste dans la machine à remonter le temps de Wire, j'ai choisi une musique déjà qui va nous introduire à cet univers-là, cette Step by Step de Jesse Winchester.
Restez bien avec nous, The Wire, en revue, c'est juste après. Et croyez-moi, c'est une série qui vaut la peine. Donc restez bien à l'écoute.
Step by step, all the happy saints go marching in. And if a saint step out of line, you have to start again. Cause Jacob's golden ladder gets slippery at the top. And many a happy-go-lucky saint has made that long, long drop. If I'm late, don't wait. Go on without me.
La machine à remonter le temps qui va aborder une série culte, si pas la meilleure série télévisée de tous les temps, The Wire, sur écoute en français. On en parle, Aurore. Qu'est-ce qu'on a à dire sur cette magnifique série?
Alors, qu'est-ce qu'on a à dire? Mais comme tu l'as dit, ça situe un petit peu à quoi on a affaire ici. Il s'agit en effet, pour tous les fans de séries, à peu près... la meilleure série qui existe, en tout cas une des meilleures, hein, au minimum, de depuis toujours, depuis l'invention de la
série télévisée.
Alors, The Wire, c'est une série créée par David Simon qui a été diffusée de 2002 à 2008 sur HBO. Mm-hmm. Ça nous plonge au cœur d'un univers assez réaliste qui est l'univers du trafic de drogue dans la ville de Baltimore.
Oui.
Alors, on va suivre pendant 5 saisons les différents aspects du trafic de drogue dans cette ville-là. Dans la première saison, on va suivre une bande de trafiquants au cœur d'un quartier très défavorisé, noir, de Baltimore. Et plus principalement, quelques jeunes qui sont les dealers de première ligne dans la revente de ce trafic de drogue. Mmh. Dans la deuxième saison, on va s'exporter du côté du port et donc plutôt du côté des travailleurs blancs de cette ville qui également vont être confrontés, vu qu'ils travaillent au port et que donc ils peuvent permettre l'importation de cette drogue, à ce trafic et à tous les problèmes que ça peut poser également. Mmh. Dans la saison 3, on va voir se rajouter à ces différents aspects le côté politique avec l'arrivée sur la scène d'un nouveau candidat à la mairie. Mmh. On va également, dans cette saison 3, assister à une tentative de la part d'un des chefs de la police d'instaurer une sorte de zone dans laquelle, oui, il serait possible de vendre légalement de la drogue. Donc c'est aussi intéressant à regarder, cette saison 3, pour ça. Dans la saison 4, va se rajouter toute la question des plus jeunes, avec notamment les problèmes de sous-financement de l'école qui peuvent amener un grand nombre de jeunes défavorisés à se tourner vers le trafic de drogue. Et enfin, dans la saison 5, on voit se rajouter en plus tout l'aspect journalistique et la presse dans ce problème-là également.
Très bien.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire donc ? Ah oui, parallèlement à tout ça, évidemment, c'est un petit peu d'ailleurs le titre de la série. Parallèlement à ces différentes saisons-là, on va avoir à chaque fois des enquêtes menées par une équipe de policiers qui va globalement rester relativement toujours la même, même si ça va être énorme, ça va continuellement connaître des problèmes, des bâtons dans les roues, etc. Mais enfin, c'est à chaque fois plus ou moins les mêmes policiers qui vont se retrouver pour essayer, malgré tout, de piéger les trafiquants de drogue et surtout d'empêcher les nombreux meurtres qui prennent place autour de ce trafic, puisqu'il s'agit principalement de policiers qui travaillent à la criminelle, voilà.
Voilà. Et d'ailleurs, c'est une sorte d'unité spéciale qui va être créée à un moment. Ils vont procéder à des écoutes téléphoniques, d'où le nom, le titre de la série.
Voilà, même si, mais en fonction des saisons, ce n'est pas
le mode opératoire privilégié à chaque fois, mais bon. Il restera jusqu'à la fin.
Oui. On s'écoute un petit extrait et puis on revient pour donner 3 bonnes raisons de regarder cette série.
Très bien.
You heroic motherfuckers kill me. Fighting the war on drugs. One brutality case at a time.
Girl, you can't even call this shit a war.
Why not?
War's end.
Voilà, on a décrit un petit peu l'histoire de cette série, The Wire, mais c'est avant tout une série culte, on vous l'a dit, et donc il y a certainement des bonnes raisons de la regarder. Quelles sont-elles, Aurore ?
Alors, je vais vous donner, comme d'habitude, en effet, 3 bonnes raisons de regarder cette série. La première, qui me paraît la plus évidente, a priori, c'est véritablement le travail de documentation qui est fait par le créateur David Simon autour de cette situation du trafic de drogue dans sa ville de Baltimore. Il faut savoir que David Simon, au départ, est un journaliste qui a travaillé pendant des années comme journaliste journaliste dans cette ville-là et qui donc connaît particulièrement bien son sujet. Et donc, on sent véritablement dans sa série une volonté de coller au plus près des réalités et des différents problèmes qui peuvent exister autour de cette question du trafic de drogue. Il ne s'agit pas simplement de voir l'aspect criminalité ou policier autour de tout ça. On va voir également, mais comme je l'ai dit, les problèmes politiques, les problèmes de bureaucratie pour les policiers, les problèmes de financement des écoles, et tout ça donne véritablement un état des lieux de cette situation qui permet de coller, à mon avis, au plus près de la réalité.
Oui, donc une vision assez vaste, profonde de la situation. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on se trouve dans un mode documentaire ?
Alors, je ne crois pas qu'on puisse dire non, qu'il s'agit d'un mode documentaire, parce que en plus de cet aspect-là, extrêmement réaliste, il y a également un vrai sens de la dramaturgie, avec une véritable intrigue et des personnages très très attachant malgré tout.
Bien sûr.
Hein, même si dans les documentaires il peut y avoir aussi des personnages attachants, mais ici
la partie récit a vraiment sa part.
La partie récit a vraiment sa part, et puis les personnages, non seulement on va les suivre longtemps, mais en plus, contrairement aux documentaires où ça arrive quand même à mon avis assez rarement, mais on va souvent les voir mourir les uns après les autres devant nos petits yeux ébahis. Hein.
Oui.
Voilà. Alors, donc, c'est la deuxième raison pour regarder cette série, selon moi, ce sont les personnages. On a véritablement, et je crois que le choix des acteurs qui a été fait pour cette série est absolument remarquable également. On a une brochette de personnages absolument fascinante, pas du tout dans le même sens que j'avais pu le dire, par exemple, pour une série comme Oz, où on est totalement dans l'excès et l'extravagance, mais on a des personnages très, très vivants, très impressionnants par ce qu'ils portent comme vérité. Autant du côté des policiers que du côté des criminels, on a l'impression d'avoir affaire à des vrais gens, quoi.
C'est ça.
Même si, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait précédemment, ils sont peut-être un petit peu plus beaux que les gens qu'on rencontre tous les jours dans la rue, c'est vrai. Et ça contribue également au charme.
Oui,
en tout cas, moi, j'ai rien contre.
Voilà, il y a une part certainement du scénario donc, qui crée le personnage en lui-même, mais il y a aussi le jeu d'acteur. Hein, et ce sont tous des acteurs qu'on aura vus soit avant dans d'autres séries et qu'on reverra après également. Donc
oui.
Voilà, ce sont des... Ce ne sont pas des amateurs.
Non, ce sont de très bons acteurs.
Et ils se sont à la limite sublimés dans cette série-là, tous.
Oui.
Il n'y en a aucun à rejeter. Enfin, voilà.
Et je crois d'ailleurs que ça leur a énormément servi. Hein.
Ah, bien sûr.
Le fait d'avoir été dans cette série-là, c'est un vrai label de qualité pour chacun d'entre eux, à mon avis. Hein. Alors, parmi les personnages absolument emblématiques qu'on va pouvoir citer de cette série-là, ben on a évidemment du côté policier, on a McNulty par exemple qu'on peut citer, qui qui est assez particulier, mais qui représente assez bien le cliché du policier irlandais totalement alcoolique et tricard, on va dire ça comme ça. On a du côté des criminels le personnage que moi je préfère, qui est Omar, évidemment.
Ah, Omar.
Omar.
Rien que le prénom, hein, ça sonne bien, je trouve.
Omar, il est trop cool, hein, il faut le dire. C'est probablement le meilleur personnage au monde.
Ouais.
Donc bon, voilà, au niveau des personnages on est vraiment servi, il y en a pour tout le monde et il y a de quoi être plongé dans leur vie, d'avoir envie de suivre ce qui leur arrive. Ceci dit, on peut dire ça des personnages principaux, mais il y a une vraie attention pour tous les personnages, même les personnages secondaires sont absolument magnifiques, hein, donc il faut le souligner quand même. La dernière chose, et on l'a dit aussi, c'est l'intrigue, troisième raison pour regarder cette série, l'intrigue qui, Même si, ben justement, parce que c'est une série qui se veut réaliste et qui donc traite de tous les problèmes que peut rencontrer la police, de toutes les embûches que peut rencontrer une enquête avant de pouvoir véritablement se mettre en place, une fois qu'elle se met en place, cette intrigue est véritablement également passionnante à suivre et ça donne envie de savoir ce qui va leur arriver à tous ces gens.
Voilà, c'est un tout, hein. Vraiment c'est une grande réussite. Si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir jusque-là, je ne peux vous conseiller qu'une chose, c'est d'aller la trouver en DVD quelque part dans un magasin. Elle est disponible et ça vaut vraiment la peine. Vous allez passer d'excellents moments.
Voilà, il faut, je crois, simplement s'accrocher les quelques premiers épisodes à chaque fois, parce que c'est vrai que certains peuvent être rebutés par le fait que ça met un petit peu de temps à démarrer au départ, c'est vrai. Mais une fois qu'on est dedans, on y est pour toujours, vu que nous, ben, ça fait déjà un petit temps qu'on l'a regardé, mais on continue à rester plongé dedans, même quand on a fini de la regarder. Hein.
Voilà, et ça donne même peut-être envie d'aller visiter la ville de Baltimore, qui n'est pas nécessairement une destination touristique privilégiée, mais se replonger dans ce monde-là en vrai, ben, c'est tentant. Voilà.
C'est vrai aussi, oui. Alors on va poursuivre avec la musique et on va rester dans l'ambiance de Wire, même si ici on est plongé dans une ambiance musicale totalement différente du premier extrait que je vous avais proposé. C'est The Life de Out the Streets de Mulliman.
Yo, y'all niggas play a lot of games, trying to cut clubs. Well, y'all niggas know y'all got clubs. Y'all be nigga ass niggas. My trunks is tight. I got Ace. I got King, deuces running wild. This is the life, this is the hood, this is the streets.
This is the life, the hood, the streets. Singer, let's go. This is the life, the hood, the streets. Singer, let's go. This is the life, the hood, the streets. Singer, let's go. This is the life.
Voilà, une nouvelle fois, il est grand temps de se quitter. On a beaucoup parlé. On se retrouve la semaine prochaine, c'est certain. Mais on voulait quand même vous signaler que l'émission s'arrête. Oui, ça c'est vrai. Mais on peut continuer à débattre un petit peu de tous les sujets abordés sur les réseaux sociaux, notamment via Facebook.
Oui, on a créé une page spécialement pour l'émission. C'est le www.facebook.com/seriefolie.be, série avec S. Et je tiens à signaler que le sujet qui a été débattu est à chaque fois publié sur la page de l'émission après chaque première diffusion et que donc ça vous permet éventuellement de venir donner votre avis, de venir faire vos commentaires, ainsi participer à la vie de cette émission.
Parfait. Et puis pour ceux qui trouvent ça un peu trop compliqué, seriefolie.be machin, ben on est quand même plus de 2000 sur la page Facebook de Mix FM. Donc vous allez sur cette page là, vous allez très facilement retrouver le sujet qui parle de Seriefolie. Il suffit de suivre quelques liens et de venir rajouter cette page dans vos favoris. Ce serait très gentil. Cliquez sur le petit j'aime de la page Seriefolie et celle de Mix FM si c'est pas encore fait. Voilà, c'est le www.facebook.com/mixfm.be et nous on se retrouve la semaine prochaine.
Mix FM.